Vous écoutez la web radio du HUF en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HUF.
Quand je suis allé brûler la petite cervelle, la Marinette, la belle était déjà morte d'un rire mal placé, d'un rhume mal placé. Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Mais pourquoi je chante Brassens, moi? Ah ben oui, c'est parce que mon invité d'aujourd'hui s'appelle Marinette Dosville. Bonjour.
Bonjour.
Alors, de la même manière que Brassens, dans cette chanson, a une femme qui lui tient tête, eh bien, vous, vous intéressez, en tout cas, dans votre spectacle que vous présentez au Festival Off d'Avignon 2021, vous intéressez à un personnage, une dame, qui, elle aussi, tenait tête et comment aux hommes de son temps. C'était le personnage de Lilith que vous mettez en scène dans ce ballet Là se délasse Lilith, manifestation d'un corps libertaire. C'est tous les soirs à la caserne à 22h30 jusqu'au 26 juillet. Alors précisons-le tout net, c'est pour un public averti, non seulement adulte, majeur et vacciné, mais averti.
C'est recommandé à partir de 18 ans et après chacun voit midi à sa porte.
Mais oui, enfin, toi, clairement pas pour des enfants, puisqu'il s'agit d'un ballet où vous explorez à votre manière les thèmes de l'érotisme notamment. Alors, ce n'est pas votre premier passage au Festival Off néanmoins.
Non, c'est même la cinquième fois qu'on vient au festival. On est déjà venu deux fois dans le même contexte, c'est-à-dire dans la sélection du Grand Est à la caserne des pompiers. Et deux fois, on était allé au théâtre de la Condition des Soirs. À l'époque, c'était dans le programme du matin en relation avec Mika Danse. Donc en fait, c'est notre cinquième édition et d'expérience, on sait que c'est plutôt une bonne chose de revenir en Avignon pour maintenir du lien avec du public et des partenaires qui ne peuvent pas nous voir quand on joue ailleurs, mais qui peuvent profiter de nous rencontrer sur le festival.
Très bien. Et disais-je, c'est une création que vous avez montée à Reims, donc votre ville d'origine, en 2018. Mais pour autant, le thème des femmes fortes et qui ne s'en laissent pas compter, vous l'avez déjà exploré avec deux autres créations que vous aviez fait un petit peu avant. D'une part, Amazon au pluriel et d'autre part, Dark Marilyn. Donc c'est un thème qui vous tient à cœur.
Oui, ça fait... En fait, j'ai un peu deux chevaux de bataille. D'un côté, je travaille sur... J'aime approfondir ce qui est la relation entre le public et les œuvres, ce qui se traduit la plupart du temps par des projets où je questionne la participation du public. Et l'autre gros endroit de recherche depuis plus d'une dizaine d'années, c'est la représentation de la femme, du féminin, en fait. Alors, ça a pu être à travers les figures de femmes désenchantées, de stars désenchantées comme Marilyn Monroe. Mmh. Là, c'est avec la figure mythique de Lilith. Mmh. Et Amazon, en fait, c'est une prochaine pièce, elle n'est pas encore créée. Elle sort en novembre prochain, c'est un septuor. D'accord. De danseuses et ça sort au Manège de Reims.
Très bien, donc affaire à suivre. Et sinon, vous êtes aussi connu pour des genres de, ce que j'appellerais des bals interactifs, notamment que vous aviez représenté au festival C'est pas du luxe à Cavaillon, il y a 2 ans là aussi.
Oui, voilà, du coup ça c'est un peu l'autre volet qu'on développe,
de votre
c'est
travail,
justement
hein.
Tout ce qui est participation du public. Et en effet, on a une commande de la Fondation Abbé Pierre pour le festival C'est pas du luxe. On a fait une, par ce qui était prévu de faire l'année dernière, aux surprises, mais on a fait une adaptation qui était possible à la Garance à Cavaillon. Et cette année, c'est la revanche, on va vraiment faire la proposition qui était commanditée l'année dernière. Et ce sera à la Fabrica à Avignon, fin septembre.
La revanche sur le Covid, en l'occurrence. Voilà. On va pas se laisser embêter, Lilith ne se laissait pas embêter par personne. On va pas se laisser embêter par un vilain virus. Et donc, ces deux aspects de votre, ces deux axes en fait, de votre travail artistique se rejoignent peu ou prou dans cette création, d'une certaine manière, puisque le thème de l'émancipation est quelque chose qui vous tient à cœur et qui, mieux que Lilith, peut, en tout cas, aux yeux de nombreuses féministes, mais pas que, de nombreux artistes aussi qui ont interprété le thème au fil des siècles, eh bien, le personnage de Lilith incarne tout à fait ce genre de combat.
Oui, Lilith, en fait, selon la tradition hébraïque, Lilith était censée être la première femme de l'humanité. Mmh. Et en fait, c'est une figure qui a été symboliquement censurée et donc retirée des textes parce qu'il semblerait qu'elle ne pouvait pas présenter ce qui allait devenir la mère de l'humanité. Une personnalité trop puissante, trop... violente et donc qui a été virée, pas gardée au casting et remplacée par la figure de Ève qu'on connaît beaucoup plus.
Et un personnage qui avait aussi une sexualité active, ce qui était très mal vu pour les pouvoirs religieux de l'époque déjà.
Oui, c'est sûr que maintenant, en fait, dans les textes dans l'Ancien Testament, il y a juste un passage où on peut entendre parler de Lilith. C'est dans le livre d'Ésaïe, où on peut justement lire « Là se délasse Lilith », qui est le titre précisément du spectacle. Et en fait, justement, elle est citée en contre-exemple, puisque les espaces où elle se délasse, c'est vu comme des espaces dits de débauche.
D'accord, donc la langoureuse Lilith, lascive, telle qu'on l'a décrit aussi dans l'art, ce préjugé tire son origine de l'Ancien Testament, là se délasse Lilith, et vous y avez rajouté dans le titre du spectacle, manifestation d'un corps libertaire. Alors un corps que vous mettez en scène dans ce seul en scène justement, qui un tableau, en un seul tableau qui dure 40-45 minutes, c'est ça ?
Oui, c'est une cinquantaine de minutes à peu près. Ouais.
Mais sans doute déjà bien épuisante pour vous. Alors, il y a quelques trouvailles de mise en scène, dont la moindre, en tout cas un parti pris de mise en scène, dont le moindre n'est pas la scène d'ouverture dans laquelle vous explorez le thème du shibari. Pouvez-vous nous définir de quoi il s'agit en fait ?
Bah, le shibari, c'est une pratique, une vieille pratique japonaise, en fait, qui au départ était une pratique de torture. Non pas du tout dans le domaine érotique, mais pour garder et attacher des prisonniers, en fait. Mm-hmm. Ce qui raconte déjà un petit peu, ce qui donne un goût de la culture japonaise, qui ne va pas s'arrêter à attacher ses prisonniers, mais qui, tant qu'à faire, va le faire de manière extrêmement esthétique, plastique. Et en fait, assez rapidement, cette pratique est passée dans le domaine plus érotique.
Dans les milieux
dans le
SM
domaine
notamment.
Dit BDSM, voilà, sur des jeux du coup de rapports de pouvoir et de domination et de soumission.
D'accord. Et donc, ben, on vous voit vous faire attacher par un de vos comparses, en l'occurrence.
Alors, non, c'est moi qui m'attache.
Il vous assiste néanmoins, parce que c'est pas
oui,
facile
il
de vous attacher à un cerceau toute seule.
Oui, il m'assiste, mais c'est très important quand même, parce que ça pose pas du tout le même postulat de départ. Mm-hmm. C'est Lilith qui s'attache toute seule et c'est Lilith qui se défait toute seule. Ça, c'est vraiment très important pour la lecture de cette pièce. C'est en pleine autonomie, en pleine conscience, en plein consentement. Après, oui, il y a une personne qui est, on pourrait dire, une espèce de servant de scène qui est là plus pour assister, pour faciliter la pose des cordes et puis surtout pour me stabiliser une fois que je suis suspendue au début du spectacle. Mais c'est vraiment moi qui, et Chloé Favriot, l'autre interprète avec qui on joue en alternance,
d'accord,
qui me fait... toute seule, en autonomie, mon baudrier de cordes qui me suspend, qui fait mes nœuds et qui me pose dans les cordes.
D'accord, donc vous voilà captive d'une toile d'araignée en quelque sorte, mais pardonnez-moi, je reviens à la charge. Mon premier sentiment pendant l'ouverture de ce spectacle, ça j'ai été justement de me dire, mais quel intérêt de mettre cette scène de la suspension dans la chorégraphie, alors que ça aurait très bien pu se passer en coulisses sans que nous, le public, on n'en voit rien et le rideau se serait ouvert sur cette scène-là.
En fait,
ça a été mon sentiment pendant le spectacle, en fait.
Ouais. Alors, en fait, au tout départ du processus de création, en fait, moi, j'ai eu vraiment une image mentale avec cette volonté de commencer le spectacle pendant l'entrée publique avec la tête en bas. Mmh. Donc, il y avait cette envie justement d'être déjà suspendu. Et puis, un processus de création, ça vient souvent contrarier ou décaler, déplacer les premières intuitions. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. En fait, on s'est aperçu que on ne voulait pas commencer cette pièce par une image qui, si elle était déjà préexistante, allait dans une forme de frontalité et de violence. Et en fait, ça change complètement la donne d'accueillir le public. Et en gros, c'est bienvenue. Et ben voilà, on va faire ça ensemble et ça va très bien se passer. Et je pense vraiment que ça impacte fortement la pièce.
D'accord. Et parmi les autres parties prises de mise en scène, alors il y a quelques éléments et de chorégraphie et du plateau lui-même qui est dans un blanc que je qualifierais de virginal, n'était le thème abordé, dans lequel il y a un liséré, enfin une section de paillettes sombres en fait, qui dans lesquelles en fait vous vous êtes amené lors des mouvements de corps à vous rouler et qui peu à peu imprègne votre peau de sorte que pour ma part j'ai cru vous voir au bout d'un moment avec des écailles de serpent sur le corps, le serpent qui est des animaux attributs de Lilith justement. Mais pour autant, bah, vous m'avez répondu quand on a discuté hors antenne que ça c'était mon sentiment personnel parce que c'était pas forcément votre intention de mise en scène.
Oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur une écriture qui est abstraite et du coup tant mieux si si cette écriture laisse l'espace à l'imaginaire et aux images personnelles de chacun. Donc vous avez vu une femme serpent. A priori, c'est plutôt raccord avec la personnalité de Lilith. Il y en a d'autres qui voient des ailes dans le dos de Lilith à la fin, donc plutôt comme une superwoman.
Ce qui est sûr, c'est qu'on voit le mot Lilith inscrit sur votre dos, sur vos omoplates.
Oui, c'est comme une espèce de tatou éphémère dans le dos. Mm-hmm. Et c'est une manière d'affirmer cet emblème, en fait, de cette manière de convoquer ce personnage, puisque pour moi, cette pièce, c'est une forme de réincarnation contemporaine et complètement subjective de ce personnage. Et pour revenir sur les strass qui sont au sol, en fait, alors ça peut évoquer un tas de choses, et c'est très bien comme ça. De notre côté, on aimait bien le fait que ça puisse être une sorte de résidu de terre, puisque la symbolique importante de Lilith, c'est qu'elle aurait été faite à partir de terre à l'égal d'Adam, et non pas à partir d'une côte d'Adam. Ce qui change évidemment.
Ce qui était le cas d'Ève notamment.
Voilà, ce qui change absolument toute la symbolique de départ. Donc ces strass, ça peut être un résidu de cette terre. Et aussi, c'est un processus qui permet donner à voir la transformation du plateau et la transformation du personnage. Puisque, à force de passer dedans, les empreintes de ces mouvements, de ces passages, de cette espèce de combativité, en fait. Donc. Ça donne un signe visible de ce rituel de passage. Et petit à petit, de manière plus ou moins consciente et en partie aléatoire par moment, ça vient adhérer sur la peau et du coup transformer le corps. Et c'est une espèce de combinaison de paillettes avec toute la charge festive qui va avec, qui pour moi est la bienvenue.
Et alors, si vous jouez dans le Berry un jour, la charge festive, ça n'engage que vous, par contre, parce que la musique est géniale, mais ne se prête pas forcément à une ambiance festive. Mais on y reviendra. Et si un jour vous jouez dans le Berry, peut-être que les gens vous diront que eux, ça leur fait penser à la Vouivre qui sort des marécages avec son corps de déesse, mais de la boue partout. Cette créature étrange et démoniaque du folklore local. Et elle est du coup, enfin, une dernière influence qui m'aura parlé à moi, c'est que vous avez des mouvements parfois un petit peu, j'ai pas envie de dire désordonnés, c'est l'idée un petit peu étrange qu'ils donnent. Parfois, des mouvements qui rappellent un petit peu les mouvements de l'araignée. Et moi, ça m'a ramené à une autre personnalité mythologique de femme prédatrice. C'était Arachne qui a donné le mot arachnophobie, etc. Bref, des mouvements d'araignée qui sont parfois assez impressionnants. Mais autant de mouvements que vous interprétez entièrement nus, si ce n'est quelques protections aux pieds et aux genoux. Protection bien naturelle par rapport aux mouvements parfois que vous faites. Mais parfois, il y a aussi une controverse au niveau de la danse contemporaine, où certains danseurs eux-mêmes ou certains chorégraphes estiment que le fait d'être entièrement nu sur scène et de revisiter l'érotisme à ce prisme-là, en fait, cache la vacuité de la démarche artistique. Alors, je trouve ça parfois un peu dur, à titre personnel, mais néanmoins, la question parfois se pose. Que répondriez-vous à de tels détracteurs, vous ?
Alors, je pense que cette vision que la nudité a pu... par moment, éventuellement cacher une vacuité de propos. Je pense qu'elle est plus trop d'époque qu'elle date d'il y a quelques années.
On m'en a encore parlé
hier.
C'est
vrai. D'accord. Ouais. Mais c'était des gens de quel âge ? Non, pardon.
Oh, vous êtes dur.
Non, en tout cas, mon ressenti, c'est que c'est une représentation qui date un peu parce que. Il fut un temps où il y avait énormément de spectacles nus en danse et c'est vrai qu'on pouvait se demander si c'était pas une mode ou en tout cas à partir du moment où il y a une récurrence, forcément ça devient légitime de se poser la question de la pertinence. Est-ce que c'est pertinent à chaque fois, oui ou non? Est-ce que c'est vraiment justifié par le propos? Pour ma part, c'est la première pièce où je suis nue au plateau. Je suis loin d'être systématiquement nue dans mes pièces et c'est complètement personnalisé et justifié par rapport à cette pièce et ce propos. Et c'est une nudité qui fait partie intégrante du propos. C'est un corps qui doit être nu et pas une nudité esthétisante, plastique, qui va se regarder en train de faire, mais un corps libre qui jubile dans l'espace.
Très bien. Et des cornues, en fait, deux cornues, le vôtre et celui de votre comparse, Chloé Favriot, puisque vous alternez d'un soir sur l'autre, en fait, cette chorégraphie dont vous êtes l'auteur, mais pour autant, vous l'interprétez d'un soir sur l'autre, un soir chacune, à vrai dire. Alors, ça m'a un petit peu surpris, cette manière de procéder, parce que je me suis dit que, est-ce que le shibari, le fait d'être suspendu par des lanières, était à ce point éprouvant pour le corps de danseuse professionnelle endurcie comme vous deux, pour que vous ayez besoin de 24 heures de récupération à chaque fois. Mais en fait, vous avez une raison tout à fait cohérente pour ça.
Oui, en fait, déjà, la pièce, elle est plutôt engageante physiquement. Après, vous pouvez me dire qu'à juste titre, qu'il y a plein d'autres pièces chorégraphiques très engageantes physiquement où les gens tiennent bon tous les jours et c'est tout à leur honneur. Pour le coup, nous, au-delà de ça, on a ce particularisme d'avoir ce début avec ces cordes. Et c'est absolument pas anodin sur les effets sur le corps, pour la simple raison que c'est pas une pratique qui est spécialement faite pour être répétée de la même manière, c'est-à-dire avoir le poids et la souffrance localisés exactement au même endroit chaque jour. C'est pas fait pour ça. Le shibari, c'est une pratique qui est évolutive, où en fait les charges se déplacent d'un endroit à un autre, puis surtout d'une fois à l'autre. Or, ce n'est pas une pratique faite pour être répétée comme une série de spectacles. Et donc, ça peut ne pas être sans conséquence. C'est pour ça qu'on a fait on a pris la décision, qui n'est pas sage économiquement, mais qui est sage au niveau de notre santé, d'être à deux à jouer en alternance. Et pour moi, ça a été un tel cadeau de transmettre cette pièce à une autre danseuse que, au-delà de l'aspect... d'être raisonnable au niveau santé, c'était vraiment super chouette. Déjà, un solo, de partager un solo, c'est un grand luxe, puisqu'on est très souvent on est solitaire dans la manière d'aborder la chose, et on est les seuls à connaître les coulisses de cette chose-là. Donc c'est un pur bonheur d'être en complicité et en solidarité avec cette autre danseuse pour s'auto-stimuler et nourrir cette série de représentations.
Très bien. Et par conséquent, soulignons le travail de votre troisième comparse, qui est peu ou prou sur scène pour interpréter la musique qui vous accompagne, qui est pourtant un homme de l'ombre. Il s'agit de Uriel Barthélémy, qui a composé la musique sous votre direction, je suppose, par rapport à vos intentions chorégraphiques, et qui, par ses percussions, par les sons qu'il arrive à créer, arrive à créer une ambiance un petit peu anxiogène, un petit peu angoissante, avec des sons qui parfois nous évoquent le fil du rasoir, ou bien des percussions un petit peu presque tribal à certains égards. D'ailleurs, on en écoutera quelques notes de musique pour conclure cette interview. Merci Marinette Dosville d'être venue nous parler de ce spectacle.
Merci à vous.
Là se délasse Lilith, manifestation d'un corps libertaire, je rappelle, c'est à la caserne à 22h30 jusqu'au 26 juillet. On se quitte avec quelques notes de musique et restez sur Osmose.